Ce matin, on va faire une pause dans la série que nous sommes actuellement avec l'étude des lettres aux églises que nous retrouvons donc dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Comme annoncé depuis quelques semaines, on désire dans ce dimanche aborder le thème justement de la persécution des chrétiens. C'est vrai que peut-être juste une fois par année, ce n'est pas suffisant et on veut continuer de prier régulièrement pour pouvoir continuer de soutenir nos frères et sœurs aussi. Qui vivent des choses difficiles. Alors, tout à l'heure, après la prédication, on va avoir un temps de prière, d'explication de ce qui se passe dans le monde. Mais avant d'aller voir ce qui se passe justement dans ces pays face à la persécution, j'aimerais parler d'un sujet qui va toucher de ce que nous allons voir justement vivre tout à l'heure. Nous allons voir ce matin le sujet de la prière et de l'importance de la prière, principalement de la prière en Église. Le thème aujourd'hui, c'est une église qui prie est une église qui avance. Une église qui prie est une église qui avance. Je pense que vous vous rappelez un peu, régulièrement nous avons mis ce bout de phrase dans nos conversations, dans nos documents sur la prière et on veut continuer de voir ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin par rapport à cela. Donc on sait l'importance de la prière, de ce temps avec Dieu, de cette relation que l'on crée avec notre Seigneur. Mais nous allons voir aussi d'autres aspects que souvent nous manquons en tant qu'Église sur la prière. On a plusieurs fois demandé que vous puissiez prier pour le comité officiel par rapport à la suite et à la direction de l'Église. Parce que nous désirons mettre aussi en avant un plan de ministère. Donc, comme il est écrit sur le PowerPoint, le plan de ministère est un document qui explique qui nous sommes en tant qu'Église, notre vision et comment nous mettons en pratique cette vision et les objectifs. Nous sommes encouragés en tant qu'Église locale par notre famille d'Église, par le mouvement méthodiste, de faire ce plan, de pouvoir prier, d'intercéder, de pouvoir comprendre, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour notre Église? Comment tu veux qu'on mette les choses vraiment en pratique? Comment que les gens vont pouvoir s'identifier à ce que nous avons écrit et de pouvoir aussi le mettre en pratique ?» Donc ce plan de ministère comporte plusieurs thèmes ou sujets que l'Église doit aborder ou comment le faire. Par exemple, comment faire des disciples, l'importance de l'évangélisation, comment grandir dans notre sanctification. Un des aspects justement de ce plan de ministère, c'est justement la prière. Comment que l'Église voit la prière? Comment elle met en action la prière dans ses programmes? Prochain dia. Donc, pour commencer un peu ce thème sur la prière, j'aimerais vous apporter quelques réflexions sur la prière. Je les ai tirées du ministère Renouvellement de l'Église, que je suis, que vous savez, depuis plus d'une année. Je fais du mentorat avec différents pasteurs francophones. Et justement, dernièrement, nous avons parlé de l'importance de la prière en Église. Et voici justement qu'est-ce qu'ils disent. Il dit, si vous décidez de renouveler votre Église, le diable commencera à vous attaquer, vous et votre Église. Si vous décidez de renouveler votre Église, le diable commencera à vous attaquer, vous et votre Église. Ça, je crois que tout le monde le sait. Que lorsque on veut vraiment marcher avec le Seigneur, lorsqu'on veut vraiment être renouvelé dans notre esprit, ça veut dire d'avoir une passion nouvelle pour le Seigneur, pouvoir vraiment marcher d'une façon juste, digne du Seigneur, l'ennemi n'est pas content. Tant que nous sommes tranquilles, tant que peut-être des fois on va de temps en temps à l'église, on prie le Seigneur, on lit la parole, mais que ça peut être pas forcément un impact dans nous, l'ennemi va nous laisser tranquille parce qu'on ne dérange pas trop. Mais lorsque on prie, lorsque on veut vraiment avancer avec le Seigneur, là on dérange l'ennemi et l'ennemi va attaquer. Une autre réflexion, la prière est l'élément clé pour jeter les fondations d'un renouvellement continu dans une église. En même temps, c'est l'une des choses les plus difficiles à lancer dans une église. Oui, c'est pour ça que justement, on désire que la prière devienne de plus en plus importante au sein de notre église, au sein de nos célébrations. Parce qu'on croit que dans la prière, dans ce rapport, dans ce dialogue, cette relation qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ, avec notre Seigneur, il veut se manifester. Il veut pouvoir, pas juste qu'on apporte nos requêtes, nos besoins, mais il veut dialoguer avec nous, il veut nous parler. En même temps, c'est une chose les plus difficiles à lancer parce qu'on sait comment que la prière, au début, lorsqu'on fait une nouvelle activité, les gens viennent en un grand nombre. Puis au bout d'un moment, ben, les gens peut-être se découragent, parce que c'est vrai que la prière, c'est pas évident, c'est pas comme peut-être un culte ou dynamique, c'est pas comme d'autres activités. Et on sait que malheureusement, dans la grande partie des églises, la prière, c'est l'enfant pauvre, comme on dit, des ministères. C'est là où on met le moins d'énergie, c'est là qu'on met le moins de finances. Le troisième réflexion, tout commence avec le pasteur principal. Il doit être une personne de prière et doit toujours passer beaucoup de temps dans la prière. Si je vous ai mis cette réflexion, parce que ça me concerne. Je sais l'importance de la prière, mais je dois l'avouer que c'est encore un combat à tous les jours, de prendre plus que juste quelques temps ou quelques minutes par jour. Comme chacun de vous, je suis beaucoup occupé. Comme chacun de vous, j'ai un programme dans ma tête et dès le matin, je pense tout ce que je dois faire la journée, tout ce que je ne dois pas oublier. Mais j'ai réalisé de plus en plus l'importance de la prière, l'importance de prendre ce temps avec Dieu, même au détriment peut-être de nos activités. J'ai réalisé que lorsqu'on prend le temps avec Dieu, peut-être au détriment d'autres activités, au détriment de certaines choses, Dieu voit, Dieu bénit. Alors oui, c'est un combat. C'est un combat comme pour moi et pour la plupart des pasteurs, c'est aussi un combat qu'on doit continuer de gagner pour le Seigneur. Je dois montrer l'exemple. Aussi, les leaders doivent montrer aussi l'exemple. Voilà pourquoi qu'on a commencé depuis un certain temps avec les leaders de pouvoir se rassembler, de prier, de réfléchir pour dire, Seigneur, quelle est notre tâche en tant que leader? Est-ce que oui, c'est peut-être diriger la louange, c'est peut-être diriger les célébrations, c'est peut-être animer un groupe de prière ou une cellule. Mais Seigneur, est-ce que tu me demandes quelque chose d'autre? Les gens nous voient autour de vous, les autres membres voient les leaders et ils veulent voir des exemples. Ils veulent voir que ces personnes les attirent vers le Seigneur, soient des modèles, des exemples pour les amener vers notre Dieu. Prochain dia. Une réflexion aussi qui vient aussi du ministère renouvellement de l'Église et que nous avons discuté avec le comité officiel, c'est la suivante. Sommes-nous une Église sans prière? Une église avec prière ou une église de prière? Trois choses différentes. Sommes-nous une église sans prière, une église avec prière et une église de prière? Alors regardons qu'est-ce que ça veut dire ces trois termes. Une église sans prière, ben, je pense que tout le monde le comprend bien, c'est une église, des célébrations où la prière, peut-être elle est là juste au début pour faire bien, protocole, mais il n'y a rien d'autre. Où on va mettre l'emphase sur bien des choses, des activités, mais la prière est absente. Une église avec prière a un programme de prière. À ce niveau, la prière a lieu lorsque l'église est rassemblée. On prie pour différents sujets, comme des requêtes ou des membres ou des besoins particuliers. Une église avec prière, elle met l'accent aussi sur la prière, mais ça fait partie comme d'une autre activité, comme par exemple la louange, comme l'enseignement, comme le temps de communion fraternelle. Mais une église de prière est comme une maison de prière où tout est dirigé vers la prière. Quand justement une église est une église de prière, la prière est visible dans tous les ministères qui incluent, autant l'informatique, l'administration, l'entretien, l'accueil. Tous les ministères, tout ce qui se passe à l'église passe à travers la prière. À ce stade, justement, l'ADN même de l'église est en train de changer. Donc la prière, on sait que doit être le standard dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre travail, dans notre ministère. Trop souvent, on va spécifier, dire, OK, ben voilà, si je prends un temps de prière, le matin ou midi ou le soir avec le Seigneur, et le reste de la journée, je laisse de côté la prière, je laisse ce dialogue, cette relation avec Dieu que j'ai besoin. Au travail, dans le choix de mes activités, dans mes directions par rapport aussi à la famille, etc. Je crois que si nous sommes une église de prière, alors des choses vont changer. Et on a regardé avec le comité officiel, et je crois qu'on aimerait, puis on pousse justement pour venir cette église de prière. Nous sommes encore une église peut-être avec prière, mais on voit que depuis un certain temps que nous mettons plus d'emphase pour devenir une église de prière. Voilà pourquoi que justement, vous avez pu voir qu'on met un peu plus d'emphase sur la prière durant les célébrations, parce qu'on croit qu'on a besoin. On a besoin de ce dialogue. On a besoin que lorsqu'on arrive le dimanche matin, qu'on vient tout bousculer, qu'on vient tout stresser, qu'on puisse arriver et dire, Seigneur, là, avant de venir devant ton trône céleste, je veux te demander pardon. Je veux m'humilier parce que peut-être qu'il y a des choses dans ma vie ou dans ma journée qui te glorifient pas. Je veux pouvoir te remercier, te louer. Je veux pouvoir célébrer ton nom. Je veux préparer mon cœur à te recevoir pour que je puisse vraiment t'adorer, te louer avec un cœur ouvert, un cœur sincère. On le fait aussi durant la semaine, comme on le fait depuis plusieurs années, depuis la pandémie, le mardi, le jeudi et le samedi, la soirée Impact Prière. Et on ne va pas forcément développer d'autres aspects de prière, mais on va mettre l'emphase sur ces temps de prière en église et aussi personnel, afin qu'on puisse voir ce que Dieu veut nous dire. Prochain diable. Donc voici ce que dit l'Église méthodiste libre du Canada dans son plan. Elle a aussi un plan de ministère. Elle nous parle sur la prière. Regardez la phrase qui nous explique pourquoi. C'est quoi l'objectif dans le plan le plan de ministère de l'Église méthodiste du Canada? Avec l'aide de Dieu, nous mobiliserons nos églises pour approfondir leur vie de prière et prier pour le renouvellement de l'Église méthodiste au Canada avec l'intention de faire progresser puissamment le royaume de Dieu au Canada et au-delà. Nous le ferons en multipliant les réunions de prière, en recrutant des intercesseurs, en équipant les églises pour développer de nouveaux ministères de prière, en rendant la prière plus centralisée dans les églises locales et en aidant les pasteurs à devenir des leaders de la prière. Une belle phrase que nous allons décortiquer dans ces prochaines semaines, prochains mois, en tant que comité, mais aussi en tant qu'église. Quand je lis cette phrase, je vois ce qui a été mis en place dans l'Église méthodiste au Canada dans ces dernières années. Je vois l'importance de marcher à cette suite, de voir comment que Dieu va conduire notre mouvement à avoir un impact au Canada. Je ne sais pas si vous le savez, on a déjà parlé. Depuis le début de l'année, il y a eu un mouvement de dire, OK, on va prendre un temps de prière à tous les midis pendant 30 minutes sur Zoom à travers le Canada pour prier pour le réveil. Du lundi au samedi, il y a un groupe à travers le Canada qui se réunit. C'est principalement en anglais. Et depuis le mois de septembre, nous avons pu intégrer aussi francophone, au moins une fois par mois avec traduction. Et plus tard, on aura peut-être plus de fois que nous pourrons aussi être avec eux. Mais au début, cette prière était prévue juste pour 2 semaines, pour commencer l'année. Et le Seigneur a incité, le Saint-Esprit leur a montré l'importance de continuer. Et depuis le mois de janvier, février, mars, avril, jusqu'aujourd'hui, et je crois qu'ils vont continuer encore pendant longtemps, tant que le Seigneur leur dira de continuer de prier pour le réveil. Et j'entends des belles choses qui se passent. Lorsque la dernière fois que nous étions ensemble, francophones, anglophones, à prier tous en même temps dans différentes langues, c'est merveilleux de voir dire, Seigneur, là, même si on ne comprend pas la prière de notre voisin, toi, tu entends. Et tu vois que des gens de Vancouver, de Calgary, de Québec, de Montréal sont en train de prier pour un réveil, pour un renouveau de l'esprit dans nos vies. Dieu entend, puis Dieu se réjouit. Le Seigneur désire apporter un renouveau dans nos églises, afin que chaque membre puisse vivre un renouvellement de l'esprit, comme on vient de dire, d'être un chrétien complet qui est transformé par le Christ, qui transforme l'autre personne à côté de lui et qui a un impact dans la société. Voilà pourquoi nous avons besoin de développer une culture de prière. Mais pour cela, nous devons mettre des choses en place et dans celle de l'Église pour voir un changement. Comme on a dit, des fois la prière, c'est secondaire. Peut-être que la prière, ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi qu'on a besoin de combattre. Prochain diable. Lorsque je regarde ces derniers temps, tout ce que nous vivons à l'Église, tout ce qui est dit sur la prière, tout ce que nous avons expérimenté justement face à la prière, je ne crois pas que c'est un hasard. Je crois que plutôt que Dieu est en train de faire comprendre une vérité. Le Seigneur nous est en train de nous faire prendre conscience d'une évidence tout simple. Trois bouts de phrase. Dans le royaume de l'esprit, tout commence et finit par la prière. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume de l'Esprit Saint, tout commence et finit par la prière. On a besoin de comprendre cela. Que la prière, comme on a dit, c'est l'ADN de notre vie. Ce n'est pas juste en temps le matin, ce n'est pas juste en temps le soir, ce n'est pas juste lorsqu'on se rassemble en tant qu'Église. Il faut qu'elle commence et qu'on finisse, et que durant tout reste dans la prière. C'est elle qui opère tout. C'est elle qui opère tout. Pourquoi? Parce que c'est à travers la prière que nous avons cette relation. La prière, ce n'est pas juste un dialogue qu'on donne verbal, mais c'est aussi la louange, c'est aussi l'enseignement. C'est le temps que nous sommes avec Dieu, que nous sommes dans sa présence. Et il veut que cette présence ne soit pas juste dans des temps limités de notre vie, mais il veut qu'il soit à chaque instant. En toutes circonstances, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans la famille, quand vous êtes sur l'ordinateur, sur Internet, il veut que vous puissiez dire oui, la prière, c'est elle qui opère tout. Elle est le véritable code génétique de l'Église. Elle est le véritable code génétique de l'Église. Lorsqu'on regarde où il y a eu les réveils à travers le monde, c'est où l'Église s'est humiliée, où l'Église a recherché Dieu, a prié, et Dieu a répondu. Matthieu chapitre 26, verset 41, qui dit « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Hein? Combien de fois qu'on a voulu dire « Ah oui, là, on va prendre un temps de prière, même nous. Hein? Oh non, les résolutions cette année, je vais prendre un temps de prière, je vais me lever le matin à 6 heures, puis je vais prendre un temps de prière, une demi-heure pour être le Seigneur. » Puis au bout de 2-3 semaines, arrivent des circonstances, des événements, d'autres choses, la fatigue, puis on perd cela. Des fois, on est bien disposé, mais la chair est faible. L'ennemi le sait très bien. Voilà pourquoi il nous donne plein de choses. Il nous met plein de choses dans la vie pour que nous n'ayons pas le temps dans la prière. Et on parlait avec le comité officiel, puis on voit comment que ce n'est pas facile aujourd'hui dans notre rythme de vie actuellement. Hein? Les déplacements, on voit comment qu'il y a beaucoup de bouchons, ça stresse les gens, etc. Voilà pourquoi que lorsqu'on fait des temps de prière ou des rencontres durant la semaine, les gens ne sont pas présents parce qu'ils partent tard du travail, ils doivent s'occuper de la famille, etc. Ce n'est pas facile de venir prier à l'Église dans ce temps que nous vivons. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque j'avais été en mission en Haïti, trois ou quatre fois par semaine, l'Église se rassemblait à 6 heures le matin pour une heure de prière. Et tu voyais tous ces gens, ces jeunes, arriver à l'Église à pied, en vélo, en bicycle et comme ça, prendre un temps de la prière. Puis après, hop, vers 7h, 7h30, ils partaient pour aller au travail. Mais cette Église vivait quelque chose d'incroyable, incroyable. Dieu faisait des miracles, des puissances incroyables. Quand on regarde ce que nous avons vécu dans ces dernières années avec la pandémie, il a fallu qu'on ait la pandémie, entre guillemets, pour qu'on puisse développer la technologie du Zoom ou de pouvoir aller justement à travers Internet. Il fallait que la pandémie soit là, qu'on ferme peut-être nos églises pour que les églises embarquent dans le Zoom. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on aime moins le Zoom parce qu'on fait tellement par cela, mais peut-être ça lui fallait cette façon-là que peut-être Dieu aussi s'est montré pour dire aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, on voit comment que beaucoup de prières se font par Zoom. Regardez, on peut communiquer maintenant à travers le Canada avec différents frères et sœurs. Je participe des fois à d'autres activités de prières internationales ou nationales avec le Zoom. Alors c'est vrai que peut-être ce n'est pas facile, peut-être des fois ce n'est pas évident. On ne sait pas la même chose que peut-être en présentiel, c'est possible. Mais Dieu peut faire différemment de choses. On a simplement besoin de dire Seigneur. Peut-être qu'on ne peut plus se rencontrer parce que les gens sont fatigués, les gens ne veulent pas se déplacer à l'église avec les déplacements, les longueurs, les kilomètres. Alors pourquoi pas aller sur Zoom et de pouvoir prier. Voilà pourquoi qu'on continue justement nos rencontres de prière sur Zoom pendant la semaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas continuer de refaire en présentiel. Depuis l'année prochaine, on va reprendre certaines activités de prière aussi en présentiel aussi, parce qu'on veut aussi pouvoir vivre aussi ce moment les uns avec les autres. Donc, je crois que Dieu veut nous faire embarquer dans ce train de la prière, dans le sens qu'il veut que nous puissions découvrir ou redécouvrir la nature de la prière, mais aussi surtout la puissance de la prière. Mais pour que ça puisse se réaliser, il n'y a pas 36 façons de le faire. On peut avoir plein de beaux programmes à l'Église, d'avoir les meilleurs évangélistes, d'avoir les ressources financières les plus grandes pour faire le maximum de publicité. Mais si nous ne prions pas, alors nous ne nous attendons pas à de grandes choses. Voilà pourquoi nous devons nous encourager à avoir une vie de prière axée sur l'écoute, axée sur la réflexion, sur l'intercession, afin que ces temps de prière puissent être vraiment des temps forts de nos journées et de notre marche chrétienne. Prochain dia. Alors, ouvrons notre Bible dans le texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. On connaît bien ce texte, on le cite souvent. Mais allez ouvrir votre Bible parce qu'on va regarder justement qu'est-ce que ce texte veut nous dire et qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme clé importante à travers ce texte. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit « Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Ce verset est la clé de la réussite de l'exaucement de la prière. Regardez en premier les quatre bouts de phrase qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire en tant que personne. Premièrement, on voit que s'humilier. On a besoin de reconnaître que nous sommes poussière devant Dieu. Devant le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, nous sommes rien. Donc, il ne faut pas simplement juste s'approcher de lui et de lui parler comme un ami. C'est vrai que nous avons cette expression aujourd'hui de que dire on peut parler à Jésus comme un ami. C'est vrai. Mais nous devons reconnaître que nous approchons du Dieu trois fois saint. Qu'on a besoin de s'humilier. Qu'on a besoin de l'honorer avec un cœur juste, avec sincère. Qu'on a besoin de se courber devant sa majesté, de demander sa grâce, de demander son pardon, parce qu'on n'est pas digne d'être dans sa présence. Voilà pourquoi, comme on a fait ce matin, on veut prendre ce temps aussi de s'humilier, de demander pardon dès le matin. On vous encourage à le faire aussi dans notre vie de tous les jours. Parce que peut-être c'est vrai qu'il y a certaines choses, il y a certains péchés ou certaines fautes qu'on sait qu'on a commis. Peut-être qu'on s'est mis en colère, peut-être qu'on a dit un mensonge. Mais il y a certaines choses peut-être dans notre vie qu'on ne fait pas trop attention. Ou peut-être c'est une certaine habitude. On peut blesser quelqu'un sans le vouloir. On peut faire autre chose sans peut-être que ça nous donne une alarme. Voilà pourquoi on a besoin de dire « Seigneur, quel que soit ce que j'ai fait, je veux m'approcher de toi. Je veux m'humilier devant toi. » Le deuxième terme qu'on voit, « prie ». Donc se mettre devant Dieu pour vivre ce dialogue. Souvent, nos prières sont des monologues. C'est nous qu'on parle à Dieu qui écoute. Seigneur, merci pour tes grâces. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, exauce, tu vois que mon problème. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Et c'est vrai que Dieu veut entendre nos requêtes, veut en reconnaître nos besoins. Mais souvent, après, on dit Amen et on part. Et on n'en attend pas la réponse de Dieu. Comme nous parlons aujourd'hui, nous avons besoin de développer cette culture de prière, une vie de prière en toutes circonstances, mais qui permet d'avoir ce dialogue, cette relation sincère avec notre Dieu. Le troisième bout de phrase, recherche ma face. Donc ça demande un temps, ça demande de l'écoute. Comme on a vu au début de l'année, qu'on a mis justement une emphase de comment écouter Dieu. Dieu peut nous parler à travers la prière, à travers son esprit. Dieu peut nous parler à travers une personne. Dieu peut nous parler à travers sa parole. Dieu peut nous parler à travers différentes façons. Mais on a besoin de rechercher sa face. On a besoin de rester dans sa présence. Pas juste de prier puis dire « Seigneur, merci, Amen », puis on se lève, on part. Non, Seigneur, je veux rester dans ta présence. Je veux goûter à ta présence. Je veux contempler ta beauté. Je veux contempler ce temps avec toi. Je veux rester tranquille avec toi parce que je suis bien en toi. Et rechercher sa face, ça prend plus que 5 minutes. Si nous avons juste peut-être 5 ou 10 minutes dans notre temps pour le Seigneur, alors ce sera difficile de rechercher sa face. Parce que le Seigneur, il a le temps. C'est vrai qu'il ne calcule pas comme nous 24 heures, puis tout un agenda. Comme on dit, un jour pour lui, c'est comme 1000 ans. Mais il veut nous dire, je veux te prendre le temps avec toi. Je veux que tu t'assieds, je veux que tu te calmes. Je veux que tu restes dans ma présence. Je veux que tu goûtes à mon amour, à ma grâce, quand je suis avec toi. Le quatrième bout de phrase, c'est « s'il revient de ses mauvaises voies ». Donc, ça demande de faire quelque chose, demande de reconnaître nos mauvaises voies et s'en détourner. Donc, il ne suffit pas simplement de demander pardon, mais d'aller dans les détails de nos mauvaises voies, de comprendre pourquoi que nous faisons ces choses-là, que nous puissions réaliser l'importance de lâcher ces choses, de voir tout le mal qu'on a pu faire et de vouloir réellement l'abandonner. Trop souvent, des fois, on va dire « Seigneur, pardonne telle chose que j'ai fait, puis on veut, après c'est fini. » Mais si on a fait du mal à une personne, ça a besoin de, oui, demander pardon, mais ça demande aussi d'aller se réconcilier avec cette personne. Ça demande aussi de faire un pas vers cette personne. Il faut qu'on mette en action, après avoir demandé pardon, de démontrer à notre Dieu que nous désirons changer et marcher dans la volonté de Dieu. Maintenant, on va voir le résultat de l'application de ces quatre bouts de phrase dans le prochain dia. Que dit la suite du verset sur l'intervention de la part de Dieu? Voici ce qu'il dit. « Moi, je l'écouterai des cieux. » Donc, la première étape que Dieu fait, il écoute. Comme on a dit, Dieu nous écoute beaucoup plus que nous l'écoutons. Mais il va écouter notre cœur. Il va voir réellement ce que nous sommes en train de faire. Et il désire nous répondre. Donc, cette première étape démontre que Dieu est intéressé par nous, comme il veut s'approcher de nous. Le Dieu trois fois saint veut s'approcher de chacun de nous personnellement. Et c'est ça que je trouve tellement incroyable avec Dieu. Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui a fait les millions de personnes, de les animaux, tout ça, il prend le temps avec chacun de nous. Il n'est pas trop occupé. Il n'est pas dit, ben, reviens dans un petit moment parce que je n'ai pas le temps, je suis avec d'autres personnes. Non, non. Je suis là avec toi. Je veux t'écouter. Je vais t'écouter. La deuxième chose, je lui pardonnerai son péché. La deuxième étape que Dieu fait avec nous, c'est qu'il nous pardonne. Cette étape du pardon est importante. Pourquoi? Parce que Dieu est juste et que le péché ne peut pas cohabiter avec lui. Il ne peut rien faire avec nous si nous restons dans la faute, si le péché nous sépare entre Dieu et nous. Voilà pourquoi l'importance de commencer dans nos prières de demander pardon, même régulièrement. Parce que si le péché est là entre nous et Dieu, nos prières vont être difficiles d'être exaucées. Nous allons être difficiles d'entendre la voix de Dieu. Que fait Jésus lorsqu'on lui amène un paralytique pour le guérir? Il le guérit, mais il lui pardonne. Dieu va nous pardonner si nous sommes sincères dans l'étape de s'humilier devant lui, de reconnaître nos péchés et de vouloir s'en débarrasser. Et le troisième terme, c'est « je guérirai son pays ». La troisième étape, ou celle où Dieu intervient pour notre vie, pour notre pays, c'est celle où Dieu fait un miracle pour nous. Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous restaurer. Voilà pourquoi il veut prendre le temps avec nous. Il ne veut pas le faire simplement juste lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes dans les célébrations ou des temps de prière ou des moments ensemble. Il veut le faire aussi chez nous. Il veut le faire à tout moment. Voilà pourquoi il veut qu'on prenne du temps avec lui. Il veut le faire aussi autour de nous, pour notre église, pour notre quartier, pour notre ville. Il veut guérir ce pays du Canada. Il veut guérir cette ville de Montréal, de tout ce qui le retient, tout ce qui l'empêche de voir la bonté et l'amour de Dieu. Il veut délivrer tous ceux qui sont emprisonnés dans le tourbillon de la peur, de la maladie, de la vie loin de Dieu. Il veut guérir notre pays, notre famille, notre Église. Vous savez, ces temps que nous prions souvent par rapport à tout ce qui se passe en Israël, et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on voit ces images, ça nous désole énormément. Même, on peut parler, je parlais l'autre jour avec un des voisins, puis il me disait, mais qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que chrétien, par rapport à Israël? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ces choses-là? C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de réponse. On sait que c'est le peuple de Dieu. On sait que, justement, malheureusement, l'ennemi va attaquer Israël. Et on sait que dans les derniers temps, le monde va se mettre contre Israël. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, comme on vous a envoyé cette semaine dans le courriel par rapport à comment prier en cas de guerre, on n'est pas là pour juger, pour condamner, mais dire « Seigneur, je prie pour ce pays. Je prie autant pour Israël que pour la Palestine. Je prie pour tous ces milliers de personnes qui meurent, ces personnes qui sont des innocents, qui tombent sous les bombes ou autre chose. Des deux côtés, Dieu n'aime pas voir mourir les personnes. Mais on a besoin de prier pour la paix. Pas la paix que le monde a proposée, parce qu'on sait que cette paix est éphémère et difficile. Mais que Israël, que la Palestine reconnaisse que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Que seul Seigneur Jésus-Christ va apporter une véritable paix. Que chaque Palestinien, chaque Israélite reconnaisse que Jésus-Christ est le Messie. Que c'est lui seul qui a les sources de vie ici-bas. Prochain dia. C'est pourquoi cet appel à la prière, à être en communion les uns avec les autres dans la prière, demande un sacrifice. Il faut prendre le temps pour Dieu. Il faut prendre le temps de prier, d'intercéder pour l'Église, pour nos frères et sœurs, pour ce qui se passe dans le monde. Parce que nous voyons ce qui se passe et nous voyons qu'on a besoin de se mettre à genoux pour prier. Ça demande aussi une soumission à l'Esprit. Il faut se mettre sous la direction de Dieu, pas venir juste avec nos préoccupations. On en parlait. Souvent, on va dire à Dieu, « Ben Dieu, je veux prier. » Puis des fois, on entend ça aussi. « Seigneur, je veux prier, mais je veux que tu fasses telle chose de telle façon et comme ça. » Des fois, on fait même de la politique dans nos prières. On dit à Dieu comment il faut qu'il agisse. Dieu est tout souverain. Que ta volonté se fasse, Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai qu'on a des désirs, on a désir que certaines choses se fassent, mais dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. C'est aussi un outil de discipline. Ça demande un effort autant pour en nous personnellement, seuls à la maison, avec nos familles, mais aussi en tant qu'Église. Mais si nous voulons l'appliquer, alors nous allons voir des choses, nous allons voir des miracles s'accomplir. On l'a vu dans l'exemple du verset de 2 Chroniques 7, 14, que Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer, Dieu veut amener sa force et sa puissance. C'est une promesse. Alors si nous croyons à Dieu, à sa toute-puissance, est-ce que nous allons nous mettre en marche dans cette prière? Prochain dia. Donc oui, pourquoi pas rentrer justement dans cette prière collective, c'est-à-dire la prière en tant qu'Église? J'ai marqué sur le PowerPoint. La prière collective est une arme. La prière collective brise mystérieusement et surnaturellement les murs qui divisent le corps du Christ et transcende les barrières des dénominations. Je ne sais pas si vous savez, mais il se passe quelque chose dans le monde et aussi au Québec avec la prière l'unité. De plus en plus, on voit comment que les familles se rassemblent ensemble. On est en train avec le REC, le Réseau évangélique du Québec, dont on fait partie, l'Église méthodiste, d'organiser des ralliements de prière au début de l'année prochaine dans toutes les régions, de voir justement les églises de différentes familles se rassembler pour prier pour l'unité, pour prier pour un impact, un réveil dans le Québec. Oui, la prière collective est une arme puissante. Elle est capable de renverser les forteresses, d'abattre le royaume des ténèbres, de rompre toute malédiction sur nos familles en son nom puissant. On a besoin, parce que lorsque nous sommes ensemble, la prière est comme multipliée, pas juste par un ou par deux, mais par 10, par 100, parce qu'on est ensemble sous le regard de Dieu et on agit, on prie. L'ennemi déteste la prière, surtout la prière collective, parce qu'il voit que la puissance de Dieu se manifeste. Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19, il dit « En vérité, je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur a donné par mon Père qui est dans les cieux. » Dès que nous sommes en Église, dès que nous prions, même deux personnes, Dieu écoute, Dieu entend et Dieu agit. Dieu aussi agit quand on est seul, mais Dieu nous demande aussi d'être ensemble pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier, pour pouvoir écouter, rechercher sa face aussi en tant qu'Église. La principale stratégie de Satan consiste à diviser pour régner. Et comment il le fait dans nos églises? Il apporte des tensions, des discordes entre les membres, toutes sortes de choses. Et on le voit comment que pendant longtemps, ici au Québec, l'unité chrétienne était difficile. Même des fois, même au sein de nos propres églises, combien dans les années plus avant, on a eu des problèmes, des tensions, des divisions qui sont apparues. Combien on voit maintenant aussi comment que les églises se rassemblent, sont plus en plus en train de voir les différences entre nous, mais regardent ce qui nous lie ensemble, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le manque d'unité dans nos églises nous empêche d'être performants dans la prière, dans l'impact de la puissance de Dieu. Alors si nous voulons grandir en tant qu'église, si nous voulons grandir en tant que personne, nous devons prendre le temps pour mieux comprendre Dieu à travers la prière, de prendre des temps de prière où on va pouvoir vraiment chercher la face de Dieu. On va pouvoir s'humilier, on va pouvoir prier, on va pouvoir aussi demander la grâce de Dieu. Afin qu'on vienne une église de prière. Pas juste une église avec prière, mais une église de prière. Pour Pourquoi j'ai voulu vous apporter ce texte ou ce thème de la prière, c'est parce que maintenant nous allons regarder comment que, justement, une partie dans une partie du monde vit les difficultés, justement, à cause justement de leur foi. Et lorsqu'on voit tous ces chrétiens qui sont persécutés de différentes manières, on sait que la prière est importante pour eux. C'est la seule arme qu'ils ont des fois, même au fond de leur prison, pour tenir bon, pour tenir ferme. Et on a besoin, nous, en tant que frères et sœurs, même peut-être si on est loin des dizaines de milliers de kilomètres d'eux, même si on ne connaît pas toute la situation qu'ils vivent, de comprendre, réaliser qu'on a besoin de les soutenir dans la prière, de pouvoir prier, intercéder, pour qu'ils puissent être fermes dans la foi, qu'ils puissent continuer de grandir, d'être protégés. Alors, prochain dia, on veut justement regarder, et voilà pourquoi que, une fois au moins par année, plusieurs ministères, dont Porte Ouverte, nous encouragent à donner, faire au moins un dimanche d'église persécutée, pour qu'on puisse réaliser qu'il y a des choses qui se passent autour de nous. Des millions de chrétiens persécutés pour leur foi. On dit qu'aujourd'hui, 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde. 360 millions, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est au moins 6 ou 7 fois ou plus du Canada, de la population du Canada. Prochain dia. Là, vous voyez un tableau. Depuis 30 ans, Porte Ouverte et d'autres ministères ont fait un index mondial de la persécution des chrétiens. Et vous voyez tout à gauche, tout en haut, en 1993, en rouge, c'est les églises qui étaient extrêmes, d'avoir une persécution extrême. Puis en orange clair, c'est forte. Et puis en rouge, c'est très forte. Mais on voit quand même que, bon, il y a quelques pays en Afrique, il y a un peu dans le Moyen-Orient, puis en Asie. En 2003, vous voyez que les tâches, surtout de persécution forte, arrivent. La Russie aussi, et puis plusieurs pays aussi de l'Afrique aussi. En 2013, on voit qu'il y a quelques changements, l'impression que peut-être la persécution diminue. Mais regardez en 2023. En 2023, là, plus de la moitié de l'Afrique vit des persécutions. On voit que dans l'Asie, que ça passait au rouge, à l'extrême. Donc on voit que la persécution des chrétiens continue. C'est la société, mais c'est le peuple chrétien qui est le plus persécuté aujourd'hui dans le monde. Prochain dia. Alors, aujourd'hui, un chrétien sur 7 est persécuté. Regardez combien nous sommes ici, à l'église, on sait sur Zoom, pour dire que un chrétien sur 7 est persécuté. C'est un pourcentage qui est très fort. Prochain dia. Un chrétien sur 15 en Amérique latine. Donc on sait qu'en Amérique latine, il y a des réveils au Brésil, dans différents pays où Dieu fait vraiment une œuvre grande. Mais il y a aussi justement certains pays qui viennent de plus en plus aussi radicaux par rapport aux chrétiens. Parce que les chrétiens font peur, alors le gouvernement donne des lois aussi pour les ralentir. Prochain dia. Un chrétien sur 5 en Afrique. Un chrétien sur 5 en Afrique. Donc on voit qu'en Afrique, beaucoup dans les pays justement tout en haut, où l'islam est en train vraiment, l'islamiste est en train vraiment de gagner du terrain, comme dans certains pays qu'on va voir tout à l'heure aussi. 2 chrétiens sur 5 en Asie et Moyen-Orient. 2 chrétiens sur 5 en Asie et Moyen-Orient. Donc on voit que la persécution dans ces pays continue. Prochain dia. On vit dans une certaine paix. Et c'est des choses qui nous dépassent, mais je pense que la plupart viennent aussi de pays qui vous avez déjà vécu des choses comme ça, similaires, et on a besoin de prier les uns pour les autres. Alors j'aimerais simplement que